Alors, qui était là ce matin? Les Vénards. Vous avez de la chance. Alors, généralement, c'est un message différent qui est donné le matin et le soir. Il y a parfois des exceptions. Aujourd'hui, c'en est une. Donc, mais vous savez, on dit que, par exemple, lorsqu'on regarde un film pour une deuxième fois, on repère toujours des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Alors, j'espère que ce sera le cas pour les quelques-uns qui étaient là ce matin. Je donne une version légèrement abrégée également ce soir de ce que j'ai donné ce matin. La semaine dernière, nous avons réfléchi à l'événement qui est au centre de toute l'histoire humaine et qui en a inversé le cours, la résurrection de Jésus-Christ. Un événement qui change tout. Et Paul, la semaine dernière, a mis l'accent d'une part sur le caractère fiable et historique de cet événement et d'autre part sur ses conséquences pour nous. Alors cette semaine, nous allons poursuivre notre réflexion sur la résurrection en mettant l'accent sur ce que la résurrection nous dit à propos de Jésus lui-même. Donc je ne vais pas revenir sur la réalité historique de la résurrection, parce que ça a été abordé directement la semaine dernière, mais je voudrais que nous nous posions cette question: qu'est-ce que la résurrection de Jésus nous enseigne à propos de Jésus lui-même et qu'est-ce que Luc veut nous montrer à travers cela? Dans le texte que Charlotte nous a lu, je vous soumets l'idée que c'est avant tout la seigneurie, c'est-à-dire l'autorité souveraine de Jésus, qui est mise en avant. Et on va examiner trois aspects de cette souveraineté, de cette seigneurie, qui me semble manifeste dans ce récit. Premièrement, le Christ ressuscité est le Seigneur des Écritures. Deuxièmement, il est le Seigneur d'une vie nouvelle. Et troisièmement, il est le Seigneur de la mission. Et je passerai un petit peu plus de temps sur le premier point. Donc Jésus est le Seigneur des Écritures. Alors, ce récit est fascinant à bien des égards. Et donc je rappelle un peu où on se trouve dans le récit de Luc. La résurrection a déjà été annoncée, le tombeau est vide, plusieurs témoins le constatent. Il y a deux messagers de Dieu qui annoncent la nouvelle, il est vivant, et il rappelle que Jésus avait lui-même annoncé à l'avance cette résurrection. Et on voit très clairement que les apôtres au début n'y croient pas. Alors, une chose, un élément, c'est qu'ils reçoivent ce premier témoignage de femmes, et à l'époque, les femmes, et Paul nous l'a dit la semaine dernière, étaient très peu considérées, et notamment, elles n'étaient pas considérées légalement comme des témoins fiables. Donc déjà, doute à ce niveau-là. Mais Pierre va courir au tombeau et constate lui aussi que le tombeau est vide et que les bandelettes qui entouraient le corps de Jésus y sont restées. Et Luc va en quelque sorte déplacer la caméra et il va zoomer sur deux disciples qui ne font pas partie du cercle des 12, qui sont maintenant les 11, mais qui sont aussi clairement des disciples de Jésus. L'un des deux s'appelle Cléopas, l'autre, ben, on ne sait pas comment il s'appelle, donc trouvez le nom que vous voulez. Mais ces deux disciples, en tout cas, sont en train de se diriger vers le village d'Emmaüs, qui se trouvait à 11 km de Jérusalem. Hein, 60 stades, la mesure de l'époque, c'est à peu près 11 km, Paris-Nanterre, hein, à pied. Alors rappelons que la crucifixion de Jésus vient d'avoir lieu moins de 48 heures auparavant. Et à Jérusalem, on ne parle que de cela. C'est vraiment l'événement majeur qui vient d'avoir lieu. Donc tout naturellement, ces deux disciples n'ont que ça en tête, à plus forte raison, parce qu'ils sont disciples de Jésus. Et lorsqu'un homme s'approche d'eux et leur demande « De quoi parlez-vous » sans doute après avoir déjà entendu une petite partie de leur conversation, bah, ils sont presque étonnés. « Non mais comment ça, de quoi on parle? Tu ne suis pas les infos ?» Enfin, on ne parle que de ça à Jérusalem. Alors ce qu'ils ne savent pas, et qui est inconcevable pour eux à ce stade, c'est que c'est le ressuscité lui-même qui leur pose cette question. Alors, quand il leur pose cette question, de quoi parlez-vous? Peut-être que c'était une façon simplement d'entamer la conversation avec eux, c'est possible. Je me demande s'il n'y a pas un peu plus que cela dans le propos de Jésus. Parce que là, ils sont en train de parler de sa mort, alors qu'il est là, lui, à côté d'eux. Sa mort n'est plus d'actualité. C'est la résurrection qui a pris le dessus. Et en fait, Jésus aurait le droit de leur répondre, mais c'est vous qui ne suivez pas l'actualité. Ne savez-vous pas que je suis ressuscité? Pourtant, ces deux hommes ont entendu déjà parler de cette résurrection, on le voit dans le texte. Ils ont entendu le témoignage des femmes, ils ont entendu le témoignage de Pierre et de Jean, qui sont allés au tombeau, qui l'ont trouvé exactement comme les femmes l'avaient dit. Mais ils ne sont pas encore arrivés à y croire. La preuve, c'est qu'au verset 17, le texte nous dit qu'ils ont l'air sombre. Donc, ils ne sont pas encore dans la joie de la résurrection. Et là, il se passe quelque chose de très étonnant. On s'attendrait à ce que Jésus leur dise « Mais enfin, vous ne me reconnaissez pas ? C'est moi !» Ou encore que, brusquement, il se révèle à eux dans un éclat de lumière et qu'il leur confirme de visu, en direct, la bonne nouvelle de la résurrection. Mais au lieu de cela, on voit que Jésus commence à leur parler des Écritures, de la Bible. Et en fait, s'il les accuse d'incrédulité, ce n'est pas avant tout parce qu'ils ne l'ont pas reconnu, ce n'est pas vraiment parce qu'ils ont mis en doute le témoignage de certaines personnes dans les heures qui ont précédé, mais c'est parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre ce que la Bible disait déjà depuis des siècles. Au verset 25, on voit que Jésus ne s'y prend pas par quatre chemins pour les reprendre. « Que vous êtes stupides !» Alors on pourrait traduire aussi « homme sans intelligence », ce qui nous choque peut-être un peu moins. Mais en tout cas, c'est aussi très franc, hein, « homme sans intelligence ».« Que votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes !» Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et Jésus va alors leur faire une étude biblique. Ils sont vraiment privilégiés d'avoir Jésus là qui leur fait une étude biblique. Verset 27, « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. » Et au verset 44, plus loin dans le texte, il dira aux autres disciples, « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ce qui est une façon de dire dans tout l'Ancien Testament. Alors Jésus semble relever deux choses particulières. Premièrement, les Écritures annonçaient que le Christ, le roi de Dieu, devait souffrir, puis être glorifié. Et deuxièmement, de manière plus large, Jésus affirme que les Écritures, dans leur ensemble, parlent de lui. Alors de quoi est-ce que Jésus parlait lorsqu'il disait les Écritures ? Eh bien, le Nouveau Testament n'avait pas encore été rédigé au moment où il parle. Il s'agissait donc de ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Et on peut se demander, mais est-ce que l'Ancien Testament parle si clairement que cela de Jésus ? Je crois qu'il faut bien comprendre que Jésus ne veut pas dire que chaque verset de l'Ancien Testament parle directement de lui. Ce qu'il veut dire ici, et c'est confirmé par la suite du texte, je pense, c'est que c'est lui qui donne son sens à la Bible entière. Si Dieu nous a adressé la parole, s'il s'est révélé à nous, c'est en premier lieu pour nous révéler le grand projet par lequel il se réconcilie avec l'humanité. Grand projet dont Jésus est le personnage principal, le héros. Toute l'Écriture converge pour témoigner de Jésus-Christ et toute l'Écriture trouve son sens dans sa personne et son œuvre. Et c'est pour ça qu'on voit ensuite qu'il doit leur ouvrir les yeux, leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Un exemple de cela. Beaucoup de gens trouvent difficile à lire, un peu ennuyeuse, certaines parties de l'Ancien Testament. Et je vous confesser que parfois, moi aussi, lorsque je lis certains textes de l'Ancien Testament, à première vue, je trouve ça un peu ennuyeux. Alors, un exemple qu'on cite souvent, c'est le Lévitique, un livre qui nous parle de lois de pureté rituelle et de sacrifices d'animaux. Et on se demande, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires de sacrifices d'animaux ? Et pourquoi est-ce que Dieu, s'il est vraiment le créateur souverain de l'univers, s'intéresse au fait qu'on apporte au prêtre tel animal qui est sacrifié de telle façon bien précise, etc. Ça paraît primitif, ça paraît naïf. Mais lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on comprend que les sacrifices qui avaient été institués selon la loi de Moïse avaient un sens symbolique et préfigurateur. C'est la lettre aux Hébreux qui va nous l'expliquer le plus précisément. Ces sacrifices avaient pour but de montrer que nous avons besoin que Dieu nous accorde le pardon de nos péchés. Nous avons besoin de cette purification de toute notre personne pour pouvoir entrer, pour pouvoir vraiment l'adorer librement. Or, la justice parfaite de Dieu exige que le mal soit puni. Et donc, selon la loi de Moïse, eh bien, on symbolisait cette nécessité par un sacrifice d'animal, et c'est l'animal qui prenait sur lui la faute. Mais bien sûr, c'est le fait que des animaux soient sacrifiés ne changeait rien en définitive, c'était un symbole. Un symbole qui annonçait la réalité à venir. Et c'est précisément le sens de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. On l'a chanté d'ailleurs tout à l'heure. Il a subi la peine que méritaient toutes nos fautes contre Dieu. Et ainsi, Dieu a montré sa justice et sa grâce à la croix. Mais il est intéressant de voir que Dieu a voulu préparer les hommes à recevoir ce don extraordinaire. Il a usé vraiment d'une pédagogie. Il a voulu donner au peuple d'Israël, au peuple de l'ancienne alliance, un avant-goût de l'œuvre magistrale qu'il allait accomplir en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, selon le verset 27, toutes les Écritures nous parlent de Jésus. C'est en lui qu'elles prennent tout leur sens. Et Jésus, en fait, affirme que ses disciples auraient dû comprendre ce que l'Écriture annonçait depuis des siècles. Et tout à l'heure, Paul nous a lu plusieurs textes qui montrent qu'effectivement, l'Ancien Testament annonçait à la fois les souffrances du roi glorieux de Dieu et sa résurrection. À la fin du chapitre 53 d'Ésaïe, on voit que le serviteur souffrant de l'Éternel est ressuscité des morts, et qu'il règne dans la gloire. Alors ce qui est étonnant, c'est que les disciples n'ont pas encore saisi, que c'est Jésus qui leur parle. Mais il y a quelque chose qui se passe en leur fort intérieur. Et il y a ce verset 32 que je trouve très beau. Ils se disent ensuite, lorsqu'ils ont compris que c'était Jésus, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Dieu le Fils leur a parlé des Écritures et leur a ouvert le sens des Écritures. Et leur cœur a brûlé en leur fort intérieur. Et Jésus s'est révélé à eux comme le Seigneur de ces Écritures. En fait, c'est même lui l'auteur des Écritures en tant que Dieu, le Fils. Seul lui pouvait leur en ouvrir le sens. Quelques leçons avant de passer plus brièvement aux deux points suivants. Premièrement, on ne peut pas comprendre la Bible dans son sens profond et ultime si nous ne la lisons pas à travers de nouvelles lunettes. Et ces nouvelles lunettes, c'est Jésus. C'est sa personne et son œuvre. Donc gardons-nous de lire la Bible exclusivement comme un livre de recettes de vie. Ce n'est pas avant tout cela la Bible. Avant tout, la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Deuxièmement, pour Jésus, la preuve magistrale de sa propre résurrection, ce n'est pas en premier lieu les témoignages oculaires, même s'ils sont très importants, et le Nouveau Testament va beaucoup insister là-dessus, mais c'est le fait que tout ce qui est arrivé selon les Écritures et a été l'accomplissement de ce qu'annonçaient déjà les Écritures, ce qui montre la cohérence du plan de Dieu. Et je crois que dans notre témoignage auprès de nos amis non-croyants, il ne faut pas que nous oublions d'insister sur cet aspect. Une lecture attentive de la Bible montre que tout ce qu'elle enseigne converge pour annoncer Jésus-Christ, sa venue, sa mort, sa résurrection. À partir du mois de septembre, on va commencer une nouvelle session du cours Apollos que nous proposons ici à l'Église. Et à partir de septembre prochain, ce sera justement un cours qui sera consacré à la cohérence de l'Écriture Ancien et Nouveau Testament. On aura l'occasion d'en reparler, mais je vous encourage, si vous avez des questions à ce sujet, si vous voulez mieux comprendre comment l'Ancien Testament annonce le Nouveau et comment l'Ancien Testament parle de Jésus et que le sommet de toute la Bible, c'est la croix et la résurrection de Jésus, eh bien, je crois que ce cours, qui a lieu une fois par mois le mardi soir, pourra vous aider. On en reparlera le moment venu. Donc n'oublions pas que Jésus insiste avant tout sur cette cohérence de l'Écriture. Troisièmement, pour Jésus, les Écritures disent vrai. Elles parlent de lui d'une manière fiable. Et donc c'est en elles que nous trouverons tout ce sur quoi nous pouvons bâtir notre foi. Et là encore, on a une magnifique assurance de la pleine fiabilité de la Bible. Ce sont les Écritures qui nous parlent de Jésus, et c'est Jésus seul qui peut nous sauver de notre péché, de notre rébellion contre Dieu, et nous amener à la réconciliation avec Dieu. Passons donc au point suivant. Jésus est le Seigneur d'une vie nouvelle. Pendant toute sa vie sur la terre, avant sa crucifixion, Jésus a assumé les limites de l'humanité. Avec une exception majeure, il était sans péché. Il est sans péché aujourd'hui encore. Et il vit dans une communion parfaite avec le Père. Et ça lui a permis de vivre une foi inébranlable, une confiance totale en Dieu qui nous est inaccessible dans cette vie. Une foi qui lui a permis de faire des miracles. Mais Jésus a bel et bien assumé les limites de notre humanité. Il s'est solidarisé pleinement avec nous. Et on voit par exemple qu'il a eu faim et soif. Il ne s'est pas fait venir de l'eau par magie, par sa puissance au moment où il avait soif. Il s'est fatigué. il n'a pas utilisé sa puissance pour épater la galerie. J'ai déjà fait allusion au film Bruce Tout-Puissant, où un homme reçoit la puissance de Dieu. C'est complètement fictif. Hein. Il reçoit la puissance de Dieu et fait n'importe quoi avec. Il rapproche la lune de la terre pour plaire à sa petite amie. Il joue des tours à d'autres personnes, etc. Et on ne voit pas du tout cela chez Jésus, qui lui, pour le coup, est vraiment Dieu dans sa gloire et dans sa puissance. Lui qui est le Seigneur de gloire s'est solidarisé à nous en assumant les limites de notre humanité. Alors attention, Jésus, bien sûr, a parfois démontré sa puissance divine pour révéler à ses disciples qui il est vraiment, en apaisant la tempête, par exemple, en marchant sur l'eau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a jamais utilisé cette puissance pour court-circuiter son humanité, pour éviter d'assumer ses limites telles que la faim, la soif, la fatigue, ou par exemple le rapport à la réalité matérielle. Mais après sa résurrection, on voit que ces limites de notre humanité ne sont plus présentes. Verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Verset 36, « Comme il disait cela, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Alors la première chose qui nous vient spontanément à l'esprit en lisant cela, c'est que Jésus est désormais un fantôme, un esprit. Et c'est ce que pensent les disciples. Verset 37, « Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. » Mais Jésus va les inviter à toucher ses mains et ses pieds. Il est bien là, en chair et en os, puis il va manger avec eux. Jésus est bel et bien vivant, ressuscité, corporellement. Ce n'est pas une apparition, il est véritablement là. Et en fait, on comprend que Jésus inaugure le monde à venir, il inaugure la nouvelle humanité. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va l'appeler le premier-né d'entre les morts, dans sa lettre aux Colossiens. Ou encore le nouvel Adam. Jésus est le premier homme de la nouvelle humanité, le premier de la vie, de résurrection, de la nouvelle création de Dieu. Et donc la résurrection de Jésus est capitale non seulement parce qu'elle prouve que notre salut est bel et bien accompli, que Dieu a accepté le sacrifice parfait que Jésus lui a présenté, mais elle est capitale aussi parce qu'elle prouve que Dieu tient ses promesses et que ce monde nouveau dont la Bible nous parle et qu'elle nous promet, eh bien, Dieu en a posé l'acte fondateur en ressuscitant Jésus. Alors nous attendons encore le plein établissement de ce monde aux yeux de tous. Nous attendons encore pour vivre nous-mêmes dans cette vie de résurrection. Parce que Dieu s'adresse encore à ce monde déchu. Et il appelle à lui des hommes et des femmes et des enfants partout dans ce monde. Il patiente avant de juger ce monde et d'établir la nouvelle création. Mais nous savons que ce monde à venir n'est pas une illusion, un mythe, qu'il est une réalité, parce qu'en Jésus-Christ, ce monde nouveau a été inauguré. Jésus est donc le Seigneur d'une vie nouvelle, et le Nouveau Testament nous enseigne avec force que si nous plaçons notre confiance en lui, le Seigneur de la vie, nous devenons héritiers de cette vie nouvelle qu'il a inaugurée pour nous. En nous tournant vers Jésus, nous nous tournons vers le Souverain dont le règne est éternel. Nous nous tournons vers le prince du monde à venir. Nous plaçons nos vies entre les mains de celui qui a vaincu la mort. Il y avait des paroles très fortes dans le chant qu'on a chanté tout à l'heure. La mort est morte. Et c'est vraiment cela que Jésus a accompli. Dernier point, enfin, le Christ ressuscité est le Seigneur de la mission. À la fin du texte, on voit que Jésus fait une transition directe entre sa mort, sa résurrection et la mission qu'il confie à ses disciples. On voit au verset 46 qu'il dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Moi j'envoie sur vous ce que mon Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, on le verra plus loin. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors on vient de voir que Jésus est l'inaugurateur, le pionnier du nouveau monde. Et c'est pour cela qu'il confie à ses disciples, qui font encore partie du monde présent, la mission d'annoncer le monde à venir, un monde sous l'autorité de Jésus-Christ, un monde qui reconnaît en Christ ressuscité son Seigneur, son Sauveur, le Roi universel et éternel. Et donc cette mission, c'est la nôtre, si nous sommes chrétiens, si nous avons confié notre vie à Jésus-Christ. Et si nous pensons que notre vie est un petit peu plan-plan, un petit peu ennuyeuse, un petit peu banale, eh bien peut-être que c'est aussi parce que nous avons oublié notre vocation. Nous sommes appelés à être les annonciateurs de la bonne nouvelle. Nous sommes inclus dans le projet le plus majestueux et le plus extraordinaire de toute l'histoire, de l'univers. Nous sommes ceux qui proclament dans ce monde en sursis, qu'un autre monde arrive et que notre Seigneur ressuscité est le roi de ce nouveau monde. Et de même, si nous avons tendance à penser que l'Église, c'est en premier lieu un lieu de soins spirituels, un lieu de ressourcement personnel, un lieu où avant toute chose, on se fait du bien entre chrétiens, c'est sans doute que notre conception de l'Église et de la vie chrétienne a de sérieuses lacunes. Et je confesse que parfois, il m'arrive de glisser vers ce type de pensée. Alors, bien entendu que l'Église nous fait du bien. Bien entendu, c'est un lieu d'encouragement et un lieu de renforcement de notre vie spirituelle pour nous qui avons confessé Jésus-Christ. Mais pourquoi ? Renforcement, pourquoi ? Mais pour que nous puissions vivre la mission du roi. Et donc, que Dieu nous garde d'oublier que nous sommes appelés à être des missionnaires, tous. Certains ont un ministère particulier d'annonce de la bonne nouvelle, à l'étranger, par exemple, ou parmi telle ou telle population. Et c'est très important. Mais la mission du roi s'adresse à nous tous, tous les jours, où que nous soyons. Ici, à la rue de Sèvres, Dieu nous a donné la grâce de nous ouvrir des portes pour cette mission. Et par exemple, cette rencontre du dimanche soir, elle a été commencée pour qu'il y ait un nouveau lieu où la parole de Dieu, la bonne nouvelle, est annoncée dimanche après dimanche. L'église des Ternes, dans le 17e arrondissement, a été fondée pour qu'il y ait aussi un nouveau lieu d'annonce de la parole dans un quartier où il y en avait très peu. Actuellement, nous sommes en réflexion par rapport à un nouveau projet dans le 15e arrondissement ou peut-être dans le 16e arrondissement. Tous ne seront pas appelés à aller fonder cette nouvelle église possible, mais nous serons appelés, pour nous qui, encore une fois, qui connaissons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous serons appelés à prier pour ce projet, à le porter ensemble en tant qu'église. Sommes-nous prêts à proclamer au monde que le Christ ressuscité est le Seigneur des Écritures, le Seigneur d'une vie nouvelle, le Seigneur de la mission? Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu nous envoies en mission parce que tu es le Seigneur, le Roi de gloire. Merci pour ce bel épisode des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Merci parce que tu leur as montré, et tu nous montres par là même, que tu es celui de qui les Écritures parlent depuis des siècles et des millénaires même, celui que nous sommes appelés aujourd'hui à reconnaître comme le roi véritable. Amen.
Merci Mathieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là dimanche dernier, mais quelques-uns ont commencé à chanter un cantique qui parle de la résurrection. Et on s'est dit que ce serait sympathique si tout le monde avait l'occasion de le chanter. À toi la gloire. Et j'invite les musiciens à venir devant. Et puis on va se lever pour le chanter.
À toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Toi le paître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. sois ton allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité.
Vous pouvez vous asseoir. Je vais donner un deuxième message. Non, je blague. Ce soir, nous aurons un pique-nique à partir de 19h50. Donc, ceux qui sont sur la liste de diffusion, vous avez reçu le mail. Si vous n'êtes pas sur cette liste et que vous souhaitez l'être, venez me voir et je serai heureux de vous y rajouter. On avait aussi fait l'annonce pour cela dimanche dernier. C'est un pique-nique, donc les uns et les autres ont amené de quoi manger, mais l'idée, c'était qu'on puisse tous amener un petit peu plus que ce dont on a besoin. Et donc, si vous n'étiez pas au courant, mais que vous voudriez rester, vous êtes les bienvenus. Et je suis sûr qu'il y aura de quoi manger pour tous. Donc à partir de 19h50 environ, nous nous retrouverons dans la salle du bain. Deux messages le même jour, je recommande pas. D'en bas, et nous allons pique-niquer ensemble. Voilà, je vais passer à l'annonce suivante. J'ai parlé tout à l'heure de la mission du roi. Eh bien, l'occasion vous est donnée, nous est donnée, demain soir à 19h30, d'aller devant la gare Montparnasse et de parler de la bonne nouvelle à les gens qui passent par là tous les jours. Il y avait eu deux semaines de pause, mais ça reprend demain soir. Rendez-vous donc à 19h30 ici même à l'église. Départ vers 19h45 pour aller là-bas à la gare Montparnasse. Le groupe des jeunes adultes se réunit mardi à 19h30. N'oubliez pas cette rencontre si vous avez à peu près entre 18 et 35 ans. Et enfin, prière et études bibliques, donc jeudi à 19h30, comme tous les jeudis, cette réunion donc aura lieu et est l'occasion de se retrouver pour prier et pour étudier la Bible. L'un des avantages de ces trois rencontres, c'est que ça réunit aussi des gens du matin, comme on dit, et du soir. Et c'est l'occasion pour nous de manifester aussi notre unité en tant qu'Église. Je rends le micro à Paul, en espérant que j'ai rien oublié.
Comme dit, vous pouvez venir en bas, sans pique-nique, sans shampoing, vous êtes les bienvenus. Et je vais lire une bénédiction, une parole de bénédiction pour terminer. Il s'agit de l'Épître aux Hébreux. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Bonne fin de soirée à chacun.
Louis le roi.